C'est le MAG sur RCF en Bourgogne avec les étudiants du Master en Stratégie de Communication Internationale, Lina Frikesh-Laraki.
Bonjour à tous et bienvenue sur RCF. Vous écoutez Curious Live et c'est parti pour la première émission de l'année 2025. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Irena, que vous avez déjà pu entendre lors de précédentes émissions. Et nous allons aujourd'hui parler de la musique comme moyen de communication universel. Pour traiter de ce sujet, nous sommes accompagnés de Dina et Maëlle, deux étudiantes du Master Massy passionnées de musique, et qui vont pouvoir nous donner leur point de vue de communicante sur la question.
Tout à fait, Lina. Mais avant d'entamer cette émission, on a demandé au public de nous donner leur point de vue sur la communication dans le monde de la musique, et voici ce qu'ils nous ont répondu.
Est-ce que pour toi, la communication joue un rôle important dans le lancement de nouvelles musiques et d'albums ?
Bien sûr, à l'heure actuelle, je vois énormément d'artistes qui utilisent les réseaux sociaux pour promouvoir leur musique, les mettre sur leur page Instagram, en parler sur des réels, des choses comme ça. Donc oui, je pense que ça a une place très importante.
Pour moi, la communication a évidemment un rôle important dans la promotion de nouvelles musiques ou d'un album. Et on le voit notamment par le biais des réseaux sociaux. De nombreux chanteurs utilisent de plus en plus des plateformes telles que TikTok en lançant par exemple un effet de trend qui va permettre de mettre en avant la musique ou l'album souhaité.
Je pense que la communication joue un rôle extrêmement important dans le lancement d'un nouvel album ou d'une nouvelle musique, tout simplement parce que c'est ce qui va introduire l'album au public, donc c'est ce qui va représenter tout simplement l'univers que l'album a envie de montrer, mais aussi ce qui va véhiculer directement le message que l'artiste a voulu faire passer.
Est-ce qu'il y a une campagne autour du lancement d'une musique ou d'un album qui t'a particulièrement marqué récemment ?
Récemment, je dirais la musique de Psy, un chanteur de K-pop coréen qui a utilisé un des acteurs de la série Squid Game pour être dans sa musique. Et très franchement, il l'a mis sur les réseaux sociaux, Netflix, ils l'ont repartagé. Pour moi, c'est quelque chose qui a fait partie du succès de la musique.
Si je devais citer un exemple, je prendrais celui... du rappeur Damso, qui avant son nouvel album en 2024, avait annoncé dans les médias la fin de sa carrière en 2020 avec son dernier album. Cette année, il est revenu avec un nouvel album intitulé « J'ai menti », faisant écho à l'annonce de sa fausse disparition en 2020. Je trouvais que c'était une communication assez intéressante.
Je pense principalement à la tournée de Sabrina Carpenter. C'est une tournée qui a très bien marché sur les réseaux sociaux. On la voit vraiment de partout. Elle a vraiment une esthétique qui est très féminine, très particulière. On voit que chacun de ses concerts a été pensé par une équipe derrière, puisqu'à chaque fois, elle l'a adapté à la ville dans laquelle elle était. Donc c'est pour ça qu'elle a fait autant de bruit, je pense.
Alors, ce qui ressort de ces témoignages, c'est que la communication joue un rôle clé, que ce soit à travers des grandes campagnes ou des stratégies plus discrètes, comme les teasers sur les réseaux sociaux. Et je trouve que c'était une belle entrée en matière pour la suite de cette émission, non, Lina ?
Alors oui, tout à fait, Irena, parce que quand on parle de musique universelle, on ne parle pas seulement des paroles, mais aussi de la mélodie, du rythme et de l'énergie qu'elle dégage. Une chanson peut toucher quelqu'un sans qu'il comprenne un seul mot des paroles. Et d'ailleurs, je pense que la beauté et la puissance de la musique se trouvent là. Par exemple, est-ce que tu te souviens du phénomène Gangnam Style de Psy, Irena ?
Bah oui, bien sûr, la chanson Gangnam Style est sortie le 12 juillet 2012. Qui aurait cru qu'une chanson en coréen deviendrait un hit mondial, réunissant des millions de personnes autour d'une danse aussi décalée ? C'est la preuve pour moi que là, la musique n'a pas besoin de traduction pour transmettre sa joie ou son excentricité.
Alors justement, je crois que Dina, tu peux nous en dire un peu plus sur les phénomènes musicaux en Corée, et notamment sur la K-pop. On peut peut-être rappeler aux auditeurs ce que c'est que la K-pop.
Bonjour. Alors, la K-pop, c'est l'abréviation de Korean Pop, donc littéralement pop coréenne. Mais c'est pas simplement un genre musical. C'est une industrie musicale qui englobe une diversité de styles, pop, rap, rock, R&B, électro et bien d'autres. Et ce phénomène dépasse la musique et s'impose comme un mouvement culturel global. Le terme K-pop désigne en réalité les productions des grandes agences sud-coréennes qui forment et gèrent des groupes ou des artistes appelés idols. Mais il est important de rappeler que toute la musique sud-coréenne ne se limite pas à la K-pop. Il existe d'autres genres très populaires comme le trot, un style musical traditionnel et rétro, ou encore des artistes indépendants qui évoluent en dehors de cette industrie.
Merci beaucoup Dina pour cette définition très claire. Et du coup, selon toi, qu'est-ce qui fait que la K-pop parvient à captiver un public si large et diversifié ?
Pour moi, la K-pop captive un public aussi large et diversifié grâce à sa grande variété et son unicité. Musicalement, il y a un peu de tout, ce qui permet à chacun de trouver un style ou un concept qui lui correspond. Mais ce qui rend la K-pop vraiment unique, c'est qu'elle ne se limite pas à la musique. Elle englobe tout un univers, avec des chorégraphies, des clips spectaculaires, des concepts visuels forts et des histoires captivantes racontées à travers chaque album ou comeback. Ça plonge le public dans une expérience immersive et crée un véritable attachement aux artistes et à leurs projets qui sont complets.
D'accord, et en plus, on entend de plus en plus parler de K-pop ces dernières années.
Exactement, c'est parce qu'il y a aussi son ouverture à l'international. Ces dernières années, la K-pop s'est exportée comme jamais. On voit de plus en plus de collaborations avec des artistes internationaux comme Rosé de Blackpink avec Bruno Mars, qu'on entend partout en ce moment. Les chansons intègrent de plus en plus de paroles en anglais, avec parfois des chansons entièrement en anglais. Et les idoles participent même à des émissions mondialement connues comme The Tonight Show de Jimmy Fallon ou le Kelly Clarkson Show, ce qui rend la K-pop beaucoup plus accessible.
C'est clair, et puis maintenant la K-pop est partout, que ce soit dans des publicités, des séries ou alors même en fond sonore en magasin.
Ouais, je suis d'accord Lina. Et d'ailleurs, Dina, il me semble que les idoles sont aussi devenues des figures emblématiques, non ?
Tout à fait, Irena. Souvent, ils sont ambassadeurs de grandes maisons de luxe. Difficile de ne pas penser à Jennie de Blackpink, qui représente Chanel depuis 2018. On les retrouve aussi dans divers événements internationaux, comme la Fashion Week, le Met Gala ou encore Coachella, renforçant leur statut d'icône mondiale. Donc, la K-pop, c'est ce mélange de diversité musicale, de créativité artistique et d'ouverture internationale qui lui permet de toucher un public aussi large et varié.
Et je me permets de rebondir sur ce que tu dis parce que, en fait, je m'interroge sur la communication autour des nouvelles sorties musicales et j'imagine qu'elle joue un rôle clé dans ce succès.
Oui, effectivement, Irena. Alors d'abord, il faut introduire le concept de comeback en K-pop. C'est le moment où un groupe revient avec de nouvelles chansons ou un album. Avant le comeback, les agences artistiques teasent énormément l'univers du projet à venir du groupe avec des concepts photos, des vidéos teasers et c'est aussi la période des précommandes d'albums. Ces albums sont bien plus que de simples CD, ce sont des objets de collection incluant des photobooks, des photocards et plusieurs autres goodies. Lorsqu'on précommande, il y a souvent des inclusions exclusives, ce qui rend ces albums encore plus désirables. Les fans adorent collectionner ces objets et échanger les photocards, un vrai jeu où l'on cherche à obtenir la collection complète.
D'accord, donc ça permet vraiment de créer un sentiment de communauté auprès des fans en fait.
Oui, c'est ça. Tout repose sur une communication 360 centrée sur le storytelling et l'émotion. Chaque comeback est un événement, album, clip, performance dans les music shows, émissions de variété et collaborations virales sur les réseaux sociaux. Tout est pensé pour immerger les fans dans un univers captivant et créer du buzz. Mais la relation ne s'arrête pas là. Sur des plateformes comme Bubble, une application où les idoles partagent du contenu exclusif avec leurs fans, et les réseaux sociaux, ils offrent des moments personnels renforçant la proximité.
D'accord, et du coup, est-ce qu'il y a d'autres moyens de renforcer ce lien des artistes avec leurs fans ?
Oui, le marché des produits dérivés, ou merch en anglais, est devenu un secteur économique à part entière. Ces objets renforcent l'identité des groupes, créent un lien émotionnel et étendent l'expérience au-delà de la musique, immergeant totalement les fans dans l'univers des idoles. En plus de cela, en Corée du Sud, les idoles sont omniprésents dans l'espace public. Les pubs dans les transports, dans la rue, ils font vraiment partie du quotidien. Et comme mentionné précédemment, leur influence dépasse largement les frontières. À l'international, ils gagnent de plus en plus en visibilité dans le paysage médiatique. Par exemple, en ce début d'année 2025, Rosé de Blackpink, J-Hope de BTS et J-Dragon du groupe Big Bang ont été annoncés pour se produire sur la scène du Gala des Pièces Jaunes le 23 janvier prochain, un événement caritatif et culturel emblématique en France. C'est donc ce mélange d'émotions, de récits et de présence constante qui maintient les fans connectés tout au long de l'année, transformant chaque interaction en fidélisation.
Merci beaucoup Dina. Alors ce qui est impressionnant, c'est la manière qu'a la K-pop de captiver des millions de fans avec des émotions et des récits qui transcendent les langues et les cultures.
Oui, t'as raison Lina, et c'est une des grandes raisons pour lesquelles la musique est aussi puissante. Je pense que chaque genre musical a sa propre manière de transmettre des émotions. Même la musique classique a ce pouvoir. Ode à la joie de Beethoven, par exemple, est devenue l'hymne de l'Union européenne. Et je trouve ça fou de penser qu'une composition instrumentale de plusieurs siècles puisse toujours transmettre des valeurs comme l'unité et la fraternité. T'en penses quoi, toi, Lina ?
Carrément, Irena. Et je cite d'ailleurs ce que dit l'Union européenne. Un hymne sans parole qui évoque, grâce au langage universel de la musique, les idéaux de liberté, de paix et de solidarité incarnés par l'Europe. Ce que je trouve génial, c'est que ces morceaux, peu importe le genre finalement, finissent par représenter des moments précis de l'histoire et deviennent des véritables symboles collectifs d'une époque. D'ailleurs, ça me fait penser à la chanson de Bob Dylan, « The Times They Are A-Changing ». Est-ce que tu la connais, Irena ?
Oui, bien sûr que je la connais. C'est une chanson qui porte le même nom que l'album, qui est sorti en 1964. Dans cette chanson, Bob Dylan cherchait à créer un hymne aux années 60, une période marquée par un climat social, politique et culturel qui était assez turbulent. Pour le contexte historique, cette chanson est sortie pendant la guerre du Vietnam. Elle est devenue une sorte d'hymne contre la guerre, particulièrement pour les militants du mouvement des droits civiques aux États-Unis.
Tout à fait, Irena. Et d'ailleurs, dans cette chanson, Bob Dylan n'hésite pas à prendre position politiquement parlant, ce qui était très rare à l'époque. Il a d'ailleurs témoigné auprès de l'ancienne revue musicale Melody Maker en 1966. Ça n'avait rien à voir avec l'âge que l'on a ou avec le fait d'être parent. C'était de l'amertume vis-à-vis des autorités, le genre de personne qui se mêle de tout et ne vous prend pas au sérieux, mais qui s'attend à ce que vous le preniez au sérieux.
C'est sûr que pour l'époque et le contexte, c'était plutôt inhabituel de voir une prise de position qui était aussi claire. D'ailleurs, comment la chanson, elle est parvenue à traverser les frontières et à transmettre son message? T'as une idée, toi, Lina?
En effet, Irena, j'ai ma petite idée. Tout d'abord, Bob Dylan utilise un langage simple et direct pour que les paroles soient comprises par le plus de monde. Pas de métaphore cachée, Bob Dylan est allé droit au but. De plus, les cibles de cette chanson sont claires. Le cœur de cible peut être défini comme étant la jeune génération, mobilisée contre la guerre du Vietnam. La cible secondaire, quant à elle, est clairement les figures d'autorité de l'époque. Enfin, Bob Dylan joue également sur le pathos, suscitant des émotions comme l'espoir ou le désir de justice, tout comme une publicité ou une campagne de communication pourrait le faire. Encore aujourd'hui, elle est considérée comme une des chansons les plus intemporelles et emblématiques.
Oui, et pour finir sur cet artiste, ça me fait penser au film A Complete Unknown, qui sort à la fin du mois avec Timothée Chalamet dans le rôle de Bob Dylan. Ce film explore non seulement sa carrière, mais aussi justement son impact culturel et politique à travers ses chansons. Et pour moi, ça montre que justement le discours autour d'un artiste peut continuer à évoluer et à toucher de nouveaux publics, même des décennies après ses débuts. Maintenant, parlons du reggae avec Bob Marley et son morceau emblématique One Love. Ce titre, sorti en 1977, a été écrit dans un contexte de tensions politiques intenses en Jamaïque. Bob Marley, à travers cette chanson, a appelé à l'unité et à la paix entre les peuples.
Je voulais justement en parler, Irena. Car peu importe la langue, le message est clair. L'amour peut nous rassembler. Et je vous propose tout de suite une petite interlude musicale pour l'écouter.
C'est le MAG sur RCF en Bourgogne avec les étudiants du Master en Stratégie de Communication Internationale, Lina Frikesh-Laraki.
Vous êtes toujours sur RCF en Bourgogne en compagnie d'Irena, Dina, Maëlle. On parlait des campagnes de communication associées à la K-pop et je vous propose que maintenant on passe à la pop. Alors Maëlle, c'est un genre que tu apprécies particulièrement, non ?
Oui, bonjour, effectivement, la pop c'est le style de musique qui me parle le plus car j'ai grandi avec. Pour définir ce genre musical, c'est de la musique plutôt douce, simple et mémorable. La construction, c'est souvent intro, couplet, refrain, couplet, et puis encore un refrain. En tout cas, j'écoutais beaucoup de chansons, que ce soit à la télé, à la radio, avec les CD et même les MP3. Ça nous rajeunit pas tout ça. Un exemple de chanson qui me vient comme ça, qui passait tout le temps, c'est Papa Outé de Stromae. J'apprécie également les musiques qui sont associées à des films ou des séries.
Alors justement, est-ce que tu aurais un exemple de musique qui vient d'un film ou d'une série qui t'a marqué ?
Oui, Ma meilleure ennemie de Stromae et Pomme qui a été réalisée pour la série Arcane. Arcane qui est adaptée du jeu vidéo League of Legends. Cette musique dépasse les barrières linguistiques car elle a captivé un public international, donc les fans d'Arcane, même en étant en français. Dans la série, la chanson est utilisée dans une scène marquante, ce qui amplifie son impact. Les spectateurs associent donc l'émotion de la scène à la musique, ce qui crée une expérience forte. Ça montre comment la musique peut toucher directement les gens au-delà des mots.
Ah mais je la connais cette technique, ça s'appelle le storytelling, c'est ça ?
Oui c'est ça Irena.
Bah, c'est comme ça que j'ai découvert la série moi, alors que je ne m'y connais pas du tout en jeu vidéo.
Oui, la communauté de League of Legends est très importante et engagée. Je pense que c'est grâce à cette base que la série a pu prendre son envol. En plus avec la beauté des dessins et l'histoire des personnages, ça a aussi attiré une autre cible, des personnes qui ne jouaient pas forcément à ce jeu, mais qui a été attirée par ce côté artistique. Et du coup, les fans ressentent l'émotion de la série et de la musique et le partagent sur les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, X, Facebook. Ça montre à quel point la musique peut rendre une scène virale.
Mais à ton avis, du coup, Maëlle, pourquoi cette chanson a marqué le public et pourquoi pas une autre ?
Je dirais que cette chanson a vraiment marqué les esprits grâce à son identité sonore. La mélodie, les paroles et les émotions qu'elle suscite font qu'on l'associe immédiatement à la série. C'est comme un logo sonore. À chaque fois qu'on entend cette chanson, on se rappelle immédiatement de la scène et de l'univers. Elle reste gravée dans les mémoires, ce qui la rend peut-être plus marquante que les autres morceaux.
Et quelle stratégie de communication tu penses qu'ils ont utilisée ?
La musique de Stromae et Pomme enrichit l'univers d'Arkane, tandis que la série donne à la chanson une visibilité internationale. Donc c'est une stratégie gagnant-gagnante.
Et en tant que communicante, est-ce que tu vois des opportunités qui auraient pu être manquées avec l'engouement qu'a pu créer cette chanson ?
Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'opportunités manquées. L'ensemble des actions mises en place sont déjà très complètes et cohérentes. Tout a été pensé de manière à ce que la musique puisse toucher un large public. C'est un équilibre parfait entre l'image et la musique. Donc en conclusion, la musique reste un puissant outil de communication universelle.
Merci beaucoup Maëlle de nous avoir éclairé sur ce sujet passionnant.
Et moi, ça me fait penser justement à Hans Zimmer, un grand compositeur de musique de film. On a tous déjà entendu ses musiques dans des films comme Le Roi Lion, Le Da Vinci Code ou Interstellar.
Absolument Irena. Et ce qui est fascinant chez Hans Zimmer, c'est qu'il ne se contente pas d'accompagner un film. Il crée une expérience émotionnelle complète. Le plus impressionnant, c'est la manière dont sa musique mêle des influences culturelles variées pour raconter des histoires qui parlent à tout le monde.
Oui, et c'est exactement le cas du film Le Roi Lion. Il a non seulement intégré des sonorités africaines pour ancrer l'histoire dans son cadre géographique, mais il a aussi collaboré avec des artistes comme Le Bohème, compositeur sud-africain, qui ouvre notamment le film avec la chanson Circle of Life. C'est un exemple pour moi parfait d'art interculturel finalement.
Et concernant les campagnes de communication, si on regarde le film récent Dune, Zimmer a encore repoussé les limites. Pour accompagner la campagne de communication, il a créé une bande-annonce musicale immersive où les sonorités extraterrestres qu'il a développées pour le film faisaient déjà voyager le public. C'est une manière incroyable de faire monter l'attente autour de l'univers visuel et sonore de Dune.
Oui, et aussi il participe activement à la promotion en partageant les coulisses de ses compositions. Sur ses réseaux sociaux et dans les interviews, il explique ses choix artistiques et pour moi ça rend son travail encore plus accessible et fascinant pour le public.
Sans oublier Irena, ses tournées mondiales, comme le Hans Zimmer Live. Ses concerts ne sont pas seulement des performances musicales, ils sont des véritables campagnes de communication pour montrer comment sa musique transcende le cinéma pour devenir une expérience en elle-même. D'ailleurs, ça me permet de faire un petit clin d'œil à notre émission de décembre où Dorian et Maxime ont échangé sur la communication des films.
Merci Lina, et quoi de mieux pour conclure que de parler des plateformes d'écoute en ligne qui ont révolutionné notre rapport à la musique. Je pense à Spotify et son fameux Spotify Wrapped. Pour ceux qui ne connaissent pas, Spotify Wrapped, c'est un récapitulatif personnalisé que la plateforme sort chaque année en décembre. Il te montre les artistes, les chansons et les genres que tu as le plus écoutés pendant l'année, le tout présenté de façon super visuelle et fun. Et ce qui est fou, c'est à quel point c'est devenu un événement. Chaque année, tout le monde l'attend, en parle, le partage sur les réseaux. C'est vraiment une campagne de communication qui cartonne et qui crée une vraie communauté musicale en ligne.
Complètement d'accord, Irena. Et perso, je trouve ça génial parce que grâce à ces playlists personnalisées, comme le Daily Mix et les recommandations, je découvre des musiques tous les jours. Des morceaux qui sont pile dans le style que moi j'aime déjà, mais qui viennent parfois d'artistes ou de pays que j'aurais jamais explorés par moi-même.
Et c'est vrai que c'est ça qu'on voulait vous montrer aujourd'hui finalement. Comment la musique peut transcender les langues, les frontières et nous connecter les uns les autres.
C'est déjà la fin de cette quatrième émission. Émission que vous pouvez retrouver en replay sur rcf.fr sous le nom C'est le mag-étudiant Massy. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain sur RCF en Bourgogne pour échanger sur une nouvelle thématique en lien avec l'art et la communication. D'ailleurs, si vous souhaitez explorer davantage le thème de l'art à travers la communication, sachez que le Master Massy organise son afterwork intitulé « Com et culture » le jeudi 6 février 2025 à partir de 18h au Darcy Comédie à Dijon. Au programme de la soirée, une table ronde sur la communication au service des artistes, suivie d'un échange et de nombreuses autres activités. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site junioragencemassy.fr/afterwork ou sur nos réseaux sociaux. Très belle soirée à toutes et à tous!